Chapitre 18, la Marseillaise, les 500 hommes de Barbaroux. Ce qui rassurait la reine était justement ce qui eût dû l'épouvanter, le manifeste du duc de Brunswick. Ce manifeste, qui ne devait revenir à Paris que le 26 juillet, rédigé aux Tuileries, en était parti dans les premiers jours du mois, mais en même temps à peu près que la cour rédigeait à Paris cette pièce insensée, dont tout à l'heure nous allons voir l'effet. Disons ce qui se passait à Strasbourg. Strasbourg, une de nos villes les plus françaises, justement parce qu'elle sortait d'être autrichienne. Strasbourg, un de nos plus solides boulevards, avait, comme nous l'avons dit, l'ennemi à ses portes. Aussi était-ce à Strasbourg que se réunissaient depuis 6 mois, c'est-à-dire depuis qu'il était question de la guerre, ces jeunes bataillons de volontaires à l'esprit ardent et patriotique. Strasbourg, mirant sa flèche sublime dans le Rhin, qui nous séparait seul de l'ennemi, était à la fois un bouillonnant foyer de guerre, de jeunesse, de joie, de plaisir, de balles, de revues, où le bruit des instruments de combat se mêlait incessamment à celui des instruments de fête. De Strasbourg, où arrivaient, par une porte, les volontaires à former, sortaient, par l'autre, les soldats qu'on jugeait en état de combattre. Là, les ennemis se retrouvaient, s'embrassaient, se disaient adieu, les sœurs pleuraient, les mères priaient, les pères disaient « Allez et mourez pour la France !» Et tout cela au milieu des cloches, au retentissement du canon, car deux voix de bronze qui parlent à Dieu, l'une est pour invoquer sa miséricorde, l'autre sa justice. À l'un de ces départs, plus solennel que les autres, parce qu'il était plus considérable, le maire de Strasbourg, Dietrich, digne et excellent patriote, invita ces braves jeunes gens à venir chez lui fraterniser dans un banquet avec les officiers de la garnison. Les deux jeunes filles du maire et 12 ou 15 de leurs compagnes, blondes et nobles filles de l'Alsace, qu'on eût prises à leurs cheveux d'or pour les nymphes de Cérès, devaient, sinon présider, du moins, comme autant de bouquets de fleurs, embellir et parfumer le banquet. Au nombre des convives, habitués de la maison de Dietrich, un ami de la famille était un jeune et noble franc-comtois nommé Rouget de Lille. Nous l'avons connu vieux, et lui-même, en nous l'écrivant tout entière de sa main, nous a raconté la naissance de cette noble fleur de guerre à l'éclosion de laquelle va assister le lecteur. Rouget de Lille avait alors 20 ans et, comme officier du génie, tenait garnison à Strasbourg. Poète et musicien, son piano était un des instruments que l'on entendait dans l'immense concert, sa voix, une de celles qui retentissaient parmi les plus fortes et les plus patriotiques. Jamais banquet plus français, plus national, n'avait été éclairé par un plus ardent soleil de juin. Nul ne parlait de soi, tous parlaient de la France. La mort était là, c'est vrai, comme dans les banquets antiques, mais la mort belle, souriante, tenant non point sa faux hideuse et son sablier funèbre, mais d'une main une épée, de l'autre une palme. On cherchait ce qu'on pouvait chanter. Le vieux « Ça ira » était un chant de colère et de guerre civile. Il fallait un cri patriotique, fraternel, et cependant menaçant pour l'étranger. Quel serait le moderne tireté qui jetterait, au milieu de la fumée des canons, du sifflement des boulets et des balles, l'hymne de la France à l'ennemi? À cette demande, Rouget de Lille, enthousiaste, amoureux, patriote, répondit « C'est moi !» et il s'élança hors de la salle. En une demi-heure, tandis que l'on s'inquiétait à peine de son absence, tout fut fait, paroles et musique, tout fut fondu d'un jet, coulé dans le moule comme la statue d'un dieu. Rouget de Lille entra, les cheveux jetés en arrière, le front couvert de sueur, haletant du combat qu'il venait de soutenir contre les deux cœurs sublimes, la musique et la poésie. « Écoutez, dit-il, écoutez tous !» Il était sûr de sa muse, le noble jeune homme. À sa voix, tout le monde se retourna, les uns tenant leur verre à la main, les autres une main frémissante dans la leur. Rouget de Lille commença. « Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre vous, de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous, dans nos campagnes, rugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. À ce premier couplet, un frissonnement électrique parcourut toute l'assemblée. Deux ou trois cris d'enthousiasme éclatèrent, mais des voix avides d'entendre le reste s'écrièrent aussitôt « Silence, silence, écoutez !» Rouget continua avec un geste de profonde indignation. « Que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés? Pour qui ces ignobles entraves, ces fers dès longtemps préparés? Français, pour nous, ah, quel outrage! Quel transport il doit exciter! C'est nous qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage. Aux armes, citoyens !» Cette fois, Rouget de Lille n'eut pas besoin d'appeler à lui le cœur. Un seul cri s'élança de toutes les poitrines. « Formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons !» Puis il continua au milieu d'un enthousiasme croissant. « Quoi, des cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers ? Quoi, ces phalanges mercenaires terrasseraient nos fiers guerriers ? Grand Dieu, par des mains enchaînées, nos fronts sous le joug se ploieraient, de vils despotes deviendraient les maîtres de nos destinées ?» Son poitrine haletante attendait la reprise, et avant que le dernier vers fût achevé, s'écrièrent « Non, non, non !» Puis, avec l'emportement d'une trombe, le cœur sublime retentit « Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons !» Cette fois, il y avait un tel frémissement parmi tous les auditeurs que ce fut Rouget de Lille, qui, pour pouvoir chanter son quatrième couplet, fut obligé de réclamer le silence. On écouta fiévreusement. La voix indignée devint menaçante. « Tremblez, tyrans, et vous, perfides, l'opprobre de tous les partis. Tremblez, vos projets parricides vont recevoir enfin leur prix. Tous tes soldats pour vous combattre, s'ils tombent nos jeunes héros, la terre en produit de nouveau. » Contre vous, tout prêts à se battre. « Oui, oui !» crièrent toutes les voix. Et les pères poussèrent en avant leurs fils, qui pouvaient marcher. Les mères levèrent dans leurs bras ceux qu'elles portaient encore. Alors Rouget de Lille s'aperçut qu'il lui manquait un couplet, le chant des enfants, cœur sublime, de la moisson à naître, du grain qui germe. Et tandis que les convives répétaient frénétiquement le terrible refrain, il laissa tomber sa tête dans ses mains. Puis, au milieu du bruit, des rumeurs, des bravos, il improvisa le couplet suivant. « Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. » Et à travers les sanglots étouffés des mères, les accents enthousiastes des pères, on entendit les voix pures de l'enfance chanter en chœur « Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchez, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons !»« Oui, mais, murmura l'un des convives, n'y a-t-il point de pardon pour ceux qui sont égarés ?»« Attendez, attendez !» cria Rouget de Lille, « et vous verrez que mon cœur ne mérite pas ce reproche. » Et d'une voix pleine d'émotion, il chanta cette strophe sainte dans laquelle est l'âme de la France tout entière, humaine, grande, généreuse, et dans sa colère planant avec les ailes de la miséricorde au-dessus de sa colère même. Français, en guerriers magnanimes, portez ou retenez vos coups, épargnez cette triste victime s'armant à regret contre vous. Les applaudissements interrompirent le chanteur. « Oui, oui, oui » cria-t-on de toutes parts. « Miséricorde, pardon à nos frères égarés, à nos frères esclaves, à nos frères qu'on pousse contre nous avec le fouet et la baïonnette. »« Oh oui !» reprit Rouget de Lille, « pardon et miséricorde pour cela. Mais ces despotes sanguinaires, mais les complices de bouillés, contre ces tigres sans pitié, déchirant le sein de leur mère, aux armes, citoyens, formez vos bataillons !» « Oui !» crièrent toutes les voix, « contre ceux-là ! Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons !»« Maintenant !» cria Rouget de Lille, « à genoux, tous, tant que vous êtes !» On obéit. Rouget de Lille seul resta debout, posa un de ses pieds sur la chaise d'un des convives, comme sur le premier degré du temple de la liberté, et, levant les deux bras au ciel, il chanta le dernier couplet, l'invocation du génie de la France. Amour sacré de la patrie, conduis, soutiens nos bras vengeurs, liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs, sous nos drapeaux, que la victoire accourt à tes mâles accents, que nos ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Allons, fit une voix, la France est sauvée, et toutes les bouches, dans un cri magnanime, De profundis du despotisme, magnificat de la liberté, s'écrièrent, aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Puis ce fut comme une joie folle, enivrante, insensée. Chacun se jeta dans les bras de son voisin, les jeunes filles prirent leurs fleurs à pleines mains, bouquets et couronnes, et semèrent tout aux pieds du poète. 38 ans après, en me racontant cette grande journée, à moi, jeune homme, qui venait pour la première fois d'entendre, en 1830, chanter par la voix puissante du peuple l'hymne sacré, 38 ans après, le front du poète rayonnait encore de la splendide auréole de 1792. Et c'était justice. D'où vient que moi-même, en écrivant ces dernières strophes, je suis tout ému? D'où vient que, tandis que ma main droite trace tremblante le cœur des enfants, l'invocation au génie de la France, d'où vient que ma main gauche essuie une larme près de tomber sur le papier? C'est que la Sainte Marseillaise est non seulement un cri de guerre, mais encore un élan de fraternité. C'est que c'est la royale et puissante main de la France tendue à tous les peuples. C'est qu'elle sera toujours le dernier soupir de la liberté qui meurt, le premier cri de la liberté qui renaît. Maintenant, comment l'hymne né à Strasbourg, sous le nom de Chant du Rhin, a-t-il éclaté tout à coup au cœur de la France, sous le nom de Marseillaise? C'est ce que nous allons dire à nos lecteurs. Le 28 juillet, comme pour donner une base à la proclamation du danger de la patrie, arriva à Paris le manifeste de Koblenz. Nous l'avons dit, c'était une œuvre insensée, une menace, et par conséquent, une insulte à la France. Le duc de Brunswick, homme d'esprit, trouvait le manifeste absurde, mais au-dessus du duc étaient les rois de la coalition. Ils reçurent la pièce toute rédigée des mains du roi de France et l'imposèrent à leur général. Selon le manifeste, tout Français était coupable, toute ville et tout village devait être démoli ou brûlé. Quant à Paris, moderne Jérusalem, condamnée aux ronces et aux épines, il n'en resterait pas pierre sur pierre. Voilà ce que disait ce manifeste qui arrivait de Koblenz dans la journée du 28 avec la date du 26. Quelque aigle l'avait donc apporté dans ses serres pour qu'il eût fait 200 lieues en 36 heures. On peut comprendre l'explosion produite par une pareille pièce. Ce fut elle qui produisit l'étincelle en tombant sur la poudrière. Tous les cœurs tressaillirent, tous s'alarmèrent, tous se préparèrent au combat. Choisissons parmi tous ces hommes un homme, parmi tous ces types un type. Nous avons déjà nommé l'homme, c'est Barbaroux. Nous allons essayer de peindre le type. Barbaroux, nous l'avons dit, écrivait vers le commencement de juillet à Rebecky « Envoie-moi 500 hommes qui sachent mourir ». Quel était l'homme qui pouvait écrire une pareille phrase et quelle influence avait-il donc sur ses compatriotes? Il avait l'influence de la jeunesse, de la beauté, du patriotisme. Cet homme, c'était Charles Barbaroux, douce et charmante figure qui trouble Madame Roland jusque dans la chambre conjugale, qui fait rêver Charlotte Corday jusqu'au pied de l'échafaud. Madame Roland commença par se défier de lui. Pourquoi s'en défiait-elle? Il était trop beau. C'était le reproche que l'on fit à deux hommes de la Révolution, dont les têtes, si belles qu'elles fussent, apparurent à 14 mois de distance, l'une à la main du bourreau de Bordeaux, l'autre à la main du bourreau de Paris. Le premier était Barbaroux, le second héros de Séchelles. Écoutez ce que dit d'eux Madame Roland. Barbaroux est léger. Les adorations que lui prodiguent les femmes sans mœurs nuisent au sérieux de ses sentiments. Quand je vois ces beaux jeunes gens, trop enivrés de l'impression qu'ils produisent, comme Barbaroux et héros de Seychelles, je ne puis m'empêcher de penser qu'ils s'adorent trop eux-mêmes pour adorer assez leur patrie. Elle se trompait, là, ces vers Pallas. La patrie fut non pas l'unique, mais la première maîtresse de Barbaroux. Ce fut elle, au moins, qui l'aima le mieux, puisqu'il mourut pour elle. Barbaroux avait 25 ans à peine. Il était né à Marseille, d'une famille de ces hardis navigateurs qui ont fait du commerce une poésie. Pour la forme, pour la grâce, pour l'idéalité, pour le profil grec surtout, il semblait descendre en droite ligne de quelqu'un de ces phocéens qui emportèrent leur dieu des bords du Permès aux rives du Rhône. Jeune, il s'était exercé au grand art de la parole, cet art dont les hommes du Midi savent se faire à la fois une arme et une parure, et puis à la poésie, cette fleur du Parnasse que les fondateurs de Marseille transportèrent avec eux du golfe de Corinthe au golfe de Lyon. Il s'était en outre occupé de physique et s'était mis en correspondance avec Saussure et Marat. On le vit éclore tout à coup pendant les agitations de sa ville natale à la suite de l'élection de Mirabeau. Il fut alors nommé secrétaire de la municipalité de Marseille. Plus tard, il y eut des troubles à Arles. Au milieu de ces troubles apparut la belle figure de Barbaroux, pareille à l'Antinous armé. Paris le réclamait, la grande fournaise avait besoin de ce sarment embaumé, ce creuset immense de ce pur métal. Il y fut envoyé pour rendre compte des troubles d'Avignon. On eût dit qu'il n'était d'aucun parti, que son cœur, comme celui de la justice, n'avait ni amitié ni haine. Il dit la vérité simple et terrible comme elle l'était, et en la disant, il parut grand comme elle. Les Girondins venaient d'arriver. Ce qui distinguait les Girondins des autres partis, ce qui les perdit peut-être, c'est qu'ils étaient de véritables artistes. Ils aimaient ce qui était beau. Ils tendirent leurs mains tièdes et franches à Barbaroux, puis, tout fiers de cette belle recrue, ils conduisirent le Marseillais chez Madame Roland. On sait ce que, à la première vue, Madame Roland avait pensé de Barbaroux. Ce qui avait surtout étonné Madame Roland, c'est que, depuis longtemps, son mari était en correspondance avec Barbaroux, et que les lettres du jeune homme étaient régulières, précises, pleines de sagesse. Elle n'avait demandé ni l'âge ni l'aspect de ce grave correspondant. C'était pour elle un homme d'une 40aine d'années, au crâne dégarni par la pensée, au front ridé par l'éveil. Elle vint au devant du rêve qu'elle avait fait et trouva un beau jeune homme de 25 ans, gai, rieur, léger, aimant les femmes, toute cette riche et brûlante génération qui fleurissait en 92 pour être fauchée en 93, les aimer. Ce fut dans cette tête qui paraissait si frivole et que Madame Roland trouvait trop belle que se formula peut-être la première pensée du 10 août. L'orage était en l'air, les nuages insensés couraient du nord au midi, du couchant à l'orient. Barbaroux leur donna une direction, les amoncela sur le toit ardoisé des Tuileries. Lorsque personne encore n'avait de plan arrêté, il écrivit à Rebecky « Envoie-moi 500 hommes qui sachent mourir ». Hélas, le véritable roi de France, c'était ce roi de la Révolution qui écrivait qu'on lui envoyât 500 hommes qui sussent mourir et à qui, aussi simplement qu'il les avait demandés, on les envoyait. Rebecky les avait choisis lui-même, recrutés parmi le parti français d'Avignon. Il se battait depuis 2 ans, il haïssait depuis 10 générations. Ils s'étaient battus à Toulouse, à Nîmes, à Arles, ils étaient faits au sang. De la fatigue, ils n'en parlaient même pas. Au jour arrêté, ils avaient entrepris, comme une simple étape, cette route de 220 lieues. Pourquoi pas? C'étaient d'âpres marins, de durs paysans, des visages brûlés par le sirocco d'Afrique ou par le mistral du Mont Ventoux, des mains noircies par le goudron ou durcies par le travail. Partout où ils passaient, on les appelait les brigands. Dans une halte qu'ils firent au-dessus d'Orgon, ils reçurent, paroles et musique, l'hymne de Rouget de Lisle sous le nom de Chant du Rhin. C'était Barbaroux qui leur envoyait ce viatique pour leur faire paraître la route moins longue. L'un d'eux déchiffra la musique et chanta les paroles. Puis tous, d'un cri immense, répétèrent le chant terrible, bien autrement terrible que ne l'avait rêvé Rouget de Lisle lui-même. En passant par la bouche des Marseillais, son chant avait changé de caractère comme les mots avaient changé d'accent. Ce n'était plus un chant de fraternité, c'était un chant d'extermination et de mort. C'était la Marseillaise, c'est-à-dire l'hymne retentissant qui nous a fait tressaillir d'épouvante dans le sein de nos mères. Cette petite bande de Marseillais, traversant villes et villages, effrayait la France par son ardeur à chanter ce chant nouveau, encore inconnu. Quand il les sut à Montereau, Barbaroux courut en informer Santerre. Santerre lui promit d'aller recevoir les Marseillais à Charenton avec 40 000 hommes. Voilà ce que Barbaroux comptait faire avec les 40 000 hommes de Santerre et ses 500 Marseillais. Mettre les Marseillais en tête, emporter d'un élan l'hôtel de ville et l'assemblée, passer sur les Tuileries, comme au 14 juillet 1789 on avait passé sur la Bastille, et sur les ruines du palais florentin, proclamer la République. Barbaroux et Rebecky allèrent attendre à Charenton Santerre et ses 40 000 faubouriens. Santerre arriva avec 200 hommes. Peut-être ne voulut-il pas donner aux Marseillais, c'est-à-dire à des étrangers, la gloire d'un pareil coup de main. La petite bande, aux yeux ardents, au visage basané, aux paroles stridentes, traversa tout Paris, du jardin du roi aux Champs-Élysées, en chantant la Marseillaise. Pourquoi l'appellerions-nous autrement qu'on ne l'appela? Les Marseillais devaient camper aux Champs-Élysées, où un banquet devait leur être donné le lendemain. Le banquet eut lieu, en effet, mais entre les Champs-Élysées et le pont tournant, à deux pas du festin, étaient rangés les bataillons de grenadiers de la section des filles Saint-Thomas. C'était une garde royaliste que le château avait placée là, comme un rempart entre les nouveaux venus et lui. Marseillais et grenadiers des filles de Saint-Thomas se flairèrent ennemis. On commença par échanger des injures, puis des coups. Au premier sang qui coula, les Marseillais crièrent « Aux armes !» sautèrent sur leurs fusils en faisceau et chargèrent à la baïonnette. Les grenadiers parisiens furent culbutés par ce premier coup de boutoir. Heureusement, ils avaient derrière eux les Tuileries et leurs grilles. Le pont tournant protégea leur fuite et se releva devant leurs ennemis. Les fugitifs trouvèrent asile dans un des appartements du roi. La tradition prétend qu'un blessé fut soigné des propres mains de la reine. Les fédérés, marseillais, bretons et dauphinois étaient 5 000. Ces 5 000 hommes étaient une puissance, non par le nombre, mais par la foi. L'esprit de la révolution était en eux. Le 17 juillet, ils avaient envoyé une adresse à l'assemblée. « Vous avez déclaré la patrie en danger, disaient-ils, mais ne la mettez-vous pas en danger vous-même en prolongeant l'impunité des traîtres ? Poursuivez Lafayette, suspendez le pouvoir exécutif, destituez les directoires de département, renouvelez le pouvoir judiciaire. » Le 3 août, c'est Pétion lui-même qui reproduit la demande, Pétion qui, de sa voix glacée au nom de la commune, réclame l'appel aux armes. Il est vrai qu'il a derrière lui deux dogues qui le mordent aux jambes, Danton et Sergent. La commune, dit Pétion, vous dénonce le pouvoir exécutif. Pour guérir les maux de la France, il faut les attaquer dans leurs sources et ne pas perdre un moment. Nous aurions désiré pouvoir demander seulement la suspension momentanée de Louis XVI. La Constitution s'y oppose. Il invoque sans cesse la Constitution, nous l'invoquons à notre tour et nous demandons la déchéance. Entendez-vous, le roi de Paris qui vient dénoncer le roi de France, le roi de l'hôtel de ville qui déclare la guerre au roi des Tuileries. L'assemblée recula devant la terrible mesure qu'on lui proposait. La question de déchéance fut remise au 9 août. Le 8, l'assemblée déclara qu'il n'y avait pas lieu à accusation contre Lafayette. L'assemblée reculait. Qu'allait-elle donc décider le lendemain à propos de la déchéance? Allait-elle, elle aussi, se mettre en opposition avec le peuple? Qu'elle prenne garde! Ne sait-elle point ce qui se passe, l'imprudente? Le 3 août, le jour même où Pétion est venu demander la déchéance, le faubourg Saint-Marceau se lasse de mourir de faim dans cette lutte qui n'est ni la paix ni la guerre. Il envoie des députés à la section des 80 et fait demander à ses frères du faubourg Saint-Antoine « Si nous marchons sur les Tuileries, marcherez-vous avec nous ?» Nous marcherons, répondent ceux-ci. Le 4 août, l'Assemblée condamne la proclamation insurrectionnelle de la section Mot-Conseil. Le 5, la Commune se refuse à publier le décret. Ce n'est point assez que le roi de Paris ait déclaré la guerre au roi de France. Voilà la Commune qui se met en opposition avec l'Assemblée. Tous ces bruits d'opposition au mouvement revenaient aux Marseillais. Les Marseillais avaient des armes, mais n'avaient pas de cartouches. Ils demandaient à grands cris des cartouches. On ne leur en donnait pas. Le 4 au soir, une heure après que le bruit s'est répandu que l'Assemblée condamne l'acte insurrectionnel de la section Mont-Conseil, deux jeunes Marseillais se rendent à la mairie. Il n'y a au bureau que deux officiers municipaux, Sergent, l'homme de Danton, Panisse, l'homme de Robespierre. « Que voulez-vous ? » demandent les deux magistrats. « Des cartouches, » répondent les deux jeunes gens. « Il y a défense express d'en délivrer, » dit Panisse. « Défense de délivrer des cartouches, » reprend l'un des Marseillais, « mais voilà l'heure du combat qui approche et nous n'avons rien pour le soutenir. » « On vous a donc fait venir à Paris pour nous égorger ?» s'écrie l'autre. Le premier tire un pistolet de sa poche. Sergent sourit. « Des menaces, jeune homme, » dit-il. « Ce n'est point avec des menaces que vous intimiderez deux membres de la Commune. »« Qui parle de menaces et d'intimidation ?» dit le jeune homme. « Ce pistolet n'est pas pour vous, il est pour moi. » Et, appuyant l'arme sur son front, « De la poudre, des cartouches ou foi de Marseillais, je me fais sauter la cervelle. » Sergent avait une imagination d'artiste, un cœur de français. Il sentit que le cri que venait de pousser le jeune homme, c'était le cri de la France. « Panisse, dit-il, prenons garde, si ce jeune homme se tue, son sang retombera sur nous. Mais si nous délivrons des cartouches malgré l'ordre, nous jouons notre tête sur le coup. Oh, n'importe, je crois que l'heure est venue de jouer notre tête, dit Sergent. En tout cas, chacun pour soi, je joue la mienne, quitte à toi de ne pas suivre mon exemple. » Et prenant un papier, il écrivit l'ordre de délivrer des cartouches aux Marseillais et signa. « Donne, dit Panisse quand Sergent eut fini, et il signa après Sergent. On pouvait être tranquille, du moment que les Marseillais avaient des cartouches, ils ne se laisseraient pas égorger sans se défendre. Aussi, les Marseillais armés, l'Assemblée accueillit-elle le 6 la pétition foudroyante qu'ils lui adressent. Non seulement elle l'accueille, mais encore elle admet les pétitionnaires aux honneurs de la séance. Elle a grand peur, l'Assemblée, tellement peur qu'elle délibère si elle ne se retirera pas en province. Vergniaud seul la retient. Et pourquoi, mon Dieu ? Qui dira que ce n'était pas pour rester près de la belle Candeille que Vergniaud voulait rester à Paris ? Peu importe au surplus. « C'est à Paris, dit Vergniaud, qu'il faut assurer le triomphe de la liberté ou périr avec elle. Si nous quittons Paris, ce ne peut être que comme Thémistocle avec tous les citoyens, en ne laissant que descendre et en ne fuyant un moment devant l'ennemi que pour lui creuser un tombeau. » Ainsi, tout le monde est dans le doute, tout le monde hésite, chacun sent la terre trembler sous lui et craint qu'elle ne s'ouvre sous ses pas. Le 4 août, le jour où l'Assemblée condamne la proclamation insurrectionnelle de la section Mot-Conseil, le jour où les deux Marseillais font distribuer par Panisse et Sergent des cartouches à leurs 500 compatriotes, ce même jour, il y avait réunion au Cadran Bleu sur le boulevard du Temple. Camille Desmoulins y était pour son compte et pour celui de Danton, Cara tenait la plume et traça le plan de l'insurrection. Le plan tracé, on se rendit chez l'ex-constituant Antoine, qui demeurait rue Saint-Honoré, vis-à-vis de l'Assomption, chez le menuisier Duplay, dans la même maison que Robespierre. Robespierre n'était point de tout cela. Aussi, quand Madame Duplay vit s'installer chez Antoine toute cette bande de perturbateurs, monta-t-elle vivement à la chambre où ils étaient rassemblés, s'écriant dans sa terreur, « Mais, monsieur Antoine, vous voulez donc faire égorger monsieur de Robespierre ?» « Il s'agit bien de Robespierre, » répondit l'ex-constituant. « Personne, Dieu merci, ne songe à lui. S'il a peur, qu'il se cache. » À minuit, le plan écrit par Cara fut envoyé à Santerre et à Alexandre, les deux commandants du faubourg. Alexandre eut marché, mais Santerre répondit que le faubourg n'était pas prêt. Santerre tenait la parole offerte à la reine le 20 juin. Au 10 août, il ne marcha que lorsqu'il ne put faire autrement. L'insurrection fut encore ajournée. Antoine avait dit qu'on ne songeait pas à Robespierre. Il se trompait. Les esprits étaient tellement troublés qu'on eut l'idée d'en faire le mobile d'un mouvement, lui, ce centre d'immobilité. Et qui eut cette idée-là, Barbaroux? Il avait presque désespéré, le hardi Marseillais. Il était tout près de quitter Paris, de retourner à Marseille. Écoutez, madame Roland, nous comptions peu sur la défense du Nord. Nous examinions, avec Servan et Barbaroux, les chances de sauver la liberté dans le Midi et d'y fonder une république. Nous prenions des cartes géographiques, nous tracions des lignes de démarcation. Si nos Marseillais ne réussissent pas, disait Barbaroux, ce sera notre ressource. Eh bien, Barbaroux crut avoir trouvé une autre ressource, le génie de Robespierre. Ou peut-être était-ce Robespierre qui voulait savoir où en était Barbaroux. Les Marseillais avaient quitté leur caserne, trop éloignée, pour venir au Cordelier, c'est-à-dire à portée du Pont-Neuf. Au Cordelier, les Marseillais étaient chez Danton. Ils allaient donc, en cas de mouvement insurrectionnel, partir de chez Danton, ces terribles Marseillais, et si le mouvement réussissait, c'était Danton qui en aurait tout l'honneur. Barbaroux avait demandé à voir Robespierre. Robespierre eut l'air de condescendre à son désir. Il fit dire à Barbaroux et à Rebecky qu'il les attendait chez lui. Robespierre, nous l'avons dit, logeait chez le menuisier Duplay. Le hasard, on se le rappelle, l'y avait conduit le soir de l'échauffourée du Champ de Mars. Robespierre regarda ce hasard comme une bénédiction du ciel, non seulement parce que, pour le moment, cette hospitalité le sauvait d'un danger imminent, mais encore parce qu'elle faisait tout naturellement la mise en scène de son avenir. Pour un homme qui voulait mériter le titre d'incorruptible, c'était bien là le logement qu'il fallait. Il n'y était cependant point entré tout de suite. Il avait fait un voyage à Arras. Il en avait ramené sa sœur, mademoiselle Charlotte de Robespierre, et il demeurait rue Saint-Florentin avec cette maigre et sèche personne à laquelle, 38 ans plus tard, nous avons eu l'honneur d'être présentés. Il tomba malade. Madame Duplay, qui était fanatique de Robespierre, sut cette maladie, vint reprocher à mademoiselle Charlotte qu'elle ne l'eût pas avertie de la maladie de son frère et exigea que le malade fût transporté chez elle. Robespierre se laissa faire. Son vœu, en sortant de chez les Duplay, comme hôte d'un instant, avait été d'y entrer un jour comme locataire. Madame Duplay donnait donc en plein dans ses combinaisons. Elle avait aussi rêvé cet honneur de loger l'incorruptible, et elle avait préparé une mansarde étroite mais propre, où elle avait fait porter les meilleurs et les plus beaux meubles de la maison pour faire compagnie à un charmant lit bleu et blanc, plein de coquetterie, tel qu'il convenait à un homme qui, à l'âge de 17 ans, s'était fait peindre tenant une rose à la main. Dans cette mansarde, Madame Duplay avait fait, par l'ouvrier de son mari, poser des rayons de sapin tout neufs pour placer des livres et des papiers. Les livres étaient peu nombreux. Les œuvres de Racine et de Jean-Jacques Rousseau formaient toute la bibliothèque de l'austère jacobin. En dehors de ces deux auteurs, Robespierre ne lisait guère que Robespierre. Aussi, tous les autres rayons étaient-ils chargés de ses mémoires comme avocat, de ses discours comme tribun. Quant aux murs, ils étaient couverts de tous les portraits que la fanatique Madame Duplay avait pu trouver du grand homme. De même que Robespierre n'avait que la main à étendre pour lire Robespierre, de quelque côté qu'il se tourna, Robespierre ne voyait que Robespierre. Ce fut dans ce sanctuaire, dans ce tabernacle, dans ce saint des saints, que l'on introduisit Barbaroux et Rebecky. Excepté les acteurs même de la scène, nul ne pourrait dire avec quelle filandreuse adresse Robespierre entama la conversation. Il parla des Marseillais d'abord, de leur patriotisme, de la crainte qu'il avait de voir exagérer même les meilleurs sentiments. Et puis il parla de lui, des services qu'il avait rendus à la Révolution, de la sage lenteur avec laquelle il en avait réglé le cours. Mais cette Révolution, n'était-il point temps qu'elle s'arrêtât? N'était-il pas l'heure où tous les partis devaient se réunir, choisir l'homme populaire entre tous, lui remettre cette Révolution entre les mains, le charger d'en diriger le mouvement? Rebecky ne le laissa pas aller plus loin. « Ah, dit-il, je te vois venir, Robespierre !» Robespierre se recula sur sa chaise, comme si un serpent fût dressé devant lui. Alors Rebecky, se levant, « Pas plus de dictateur que de roi, dit-il, viens, Barbaroux !» Et tous deux sortirent aussitôt de la mansarde de l'incorruptible. Paris, qui les avait amenés, les suivit jusque dans la rue. « Ah, dit-il, vous avez mal saisi la chose, mal compris la pensée de Robespierre. Il s'agissait tout simplement d'une autorité momentanée, et si l'on suivait cette idée-là, nul certainement plus que Robespierre. » Mais Barbaroux l'interrompit, et répétant les paroles de son compagnon, « pas plus de dictateur que de roi. » Puis il s'éloigna avec Rebecky.